Il n'y a pas que le 8 mars, parce qu'en une journée, on ne peut pas célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes vers l'égalité. Parce que 24 heures, c'est trop peu pour aborder l'égalité dans le travail, le droit de vote pour les femmes dans le monde, l'utilisation de l'image des femmes pour vendre du shampoing, une cuisinière ou une voiture. Alors on rajoute un petit peu de temps chaque mois sur Radio B. En ce jour de mars 2019, une vitrine d'événements qui se passe ici, à Bourg-en-Bresse. Des événements portés par quatre femmes. Annie Potard prépare une exposition à H2M. Christine Piotte annonce que les métiers en tout genre ont de l'avenir. Emeline fait une étude sur la sexualité des associations. Et Patricia Medviel présente le collectif Femmes Mixité. Patricia Medviel, c'est une femme qui, en plus de son travail de cheminote et de sa vie familiale, a réussi à dédier une partie de son temps pour faire avancer les droits, particulièrement les droits des femmes. En ce mois de mars, elle a donc toute sa place pour nous parler du travail qu'elle fait au sein du syndicat et particulièrement au sein d'un collectif Femmes Mixité de la CGT. Patricia Medviel est permanente à l'Union départementale. Elle m'a reçue il y a quelques jours à la Nouvelle Maison des Syndicats pour me présenter le collectif Femmes Mixité.
Alors le collectif Femmes Mixité, et j'insiste sur le mot mixité puisque nous sommes composés de femmes et d'hommes, nous sommes 8. Il est né il y a 5 ans. Avec une volonté d'évoquer les questions d'égalité femmes-hommes, enfin d'inégalité plutôt entre les femmes et les hommes, et d'aborder aussi les questions de discrimination. Et donc nous sommes exclusivement sur du projet, et donc avec des projets ciblés, à savoir nous tenons à marquer le 8 mars, la semaine de l'égalité, et cette année nous marquerons aussi le 24 novembre sur notre périmètre, à savoir la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Ce sont des sujets qui nous parlent, voilà. Et on se dit que tant qu'il y aura cette date dans le calendrier, c'est que nous aurons encore des revendications à porter et des actions à mener pour que justement ces dates-là n'existent plus dans notre calendrier.
Alors, par exemple, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été des actions qui ont été faites ces derniers temps pour nous donner une petite idée ?
Mais écoute, la dernière en date, c'est la venue de Pinard Sélec. Pourquoi Pinard Sélec ? Parce que justement, on voulait donner une dimension autre que celle de la revendication classique de l'égalité salaire. On était plutôt sur une dimension de discrimination et faire le lien avec le mouvement, la question des migrants. Voilà. Pourquoi ? Parce que on voit bien que ce drame humain qui se déroule sous nos yeux, on met souvent en avant les hommes et rarement les femmes qui, elles aussi, quittent pays, famille, violence, etc. et dont on ne parle quasiment jamais et qui subissent beaucoup de violence dans ce départ.
Alors, Pinard Sélec, tu peux nous dire qui est cette femme ? Nous la présenter un petit peu.
Alors Pinard, c'est un auteur féministe, elle est antimilitariste, c'est une figure puisqu'elle a vraiment fait face à l'oppression dans son pays qui est la Turquie. C'est une femme qui est pleine d'énergie, qui croit en ce qu'elle dit et en ce qu'elle fait. Elle est également sociologue, elle dispense des cours à Nice et elle a aussi fait des contes pour enfants. Le dernier en date, c'est Verte et l'oiseau.
Alors, Pinard Sélec, qu'on a rencontré au Vox cet automne, elle avait travaillé avec l'école Daudet et l'école Louis Parent à partir d'un de ses contes, justement. Et ça a été vraiment une belle journée d'éducation populaire qui permet aux enfants d'échanger sur des sujets de solidarité, entre autres. Deuxième temps fort proposé par ce groupe Femmes Mixité, nous retrouvons Patricia Medviel sur Radio B, il n'y a pas que le 8 mars.
Alors le 8 mars, bien sûr, comme on se le disait, tant qu'il y a un 8 mars, on sera présent. Donc on a décidé pour cette année d'être plus visible. Là on va renouer avec le préavis de grève à partir de 15h40 puisque c'est l'heure à laquelle les femmes travaillent bénévolement pour leur entreprise sur un format classique d'horaire. Et donc, il y aura donc un préavis qui sera déposé certainement par notre union départementale. On se rassemblera devant la préfecture pour une prise de parole et on souhaite quelque chose de très visible, de très bruyant, avec un slogan qui pourrait être « Vous ne nous voyez pas, vous allez nous entendre » avec, voilà, Batoukada, des casseroles pour la fameuse symbolique de la charge mentale additionnée, professionnelle, familiale, sociale, voire militante, etc. Avec ce qu'on pourrait avoir à l'arrivée, une exposition, un quiz, et voilà.
Eh bien voilà, donc rendez-vous à 16h à la préfecture ce 8 mars. Le rassemblement rejoindra le champ de foire où seront installés donc des stands, des jeux, des quiz, une expo, en fait un lieu de rencontre et de discussion. En tout cas, nous, on y sera.
J'en vois peu qui se pam pam pour l'égalité homme-femme. Qu'est-ce qui se tram tram contre l'égalité homme-femme? L'égalité homme-femme, c'est une cause qui m'enflamme. Ce message n'est pas un spam. Dans nos organigrammes, il ne faut pas laisser madame. Je joue un air de mandoline contre la domination masculine. Oh oui, je joue un air de mandoline contre la domination masculine. Certains chérissent la cause animale. Moi je préfère l'égalité homme-femme. Tant pis si on bifame. Je jette une pierre dans le plafond vert. Même salaire pour le quincailler, la quincaillère. Le temps n'est plus, les amours ancillaires. Partageons les tâches ménagères. J'aime quand tu bouges, bouges, bouges comme l'un de couche. J'aime quand tu bouges, bouges, bouges comme l'un de couche. J'en vois peu qui se pam pam pour l'égalité homme-femme.
Fabrice Plisquin, surtout connu comme écrivain, chante à sa manière, on pourrait dire, l'égalité homme-femme. Est-ce du lard, est-ce du cochon? On ne sait pas bien, on lui demandera si on le voit. En tout cas, nous retrouverons Patricia Medvielle lors d'une prochaine émission. Ce sera l'occasion de parler égalité homme-femme dans les luttes syndicales. Maintenant, notre deuxième thème, l'égalité homme-femme dans les associations. Alors, à l'occasion du week-end des assos qui s'est déroulé sur le parvis de la Tannerie à Bourg cet automne, un flyer a attiré mon attention. Les assos ont-elles un sexe ? Une rencontre proposée par la GLCA, anciennement Maison des Associations. Vous voulez tout savoir sur les assos, monter une asso, gérer une asso, trouver une asso. Chaque employé est un expert dans son domaine. Pour l'heure, est-ce que les assos ont un sexe? C'est Émiline Bertin qui nous répond.
L'idée, c'était de pouvoir un petit peu sensibiliser et questionner justement la place des femmes dans les associations, voir si les inégalités qu'on peut constater au quotidien dans notre société se répercutent aussi dans le milieu associatif.
Qui est-ce qui a eu cette idée lors d'un CA ou une personne a porté plus cette problématique?
Alors, c'est plus partie de l'équipe salariée, en fait, de la GLCA, des personnes qui sont en charge d'accompagner les assos. C'est né de... quelque chose en fait, enfin d'un constat un peu instinctif dans un premier temps, qui était de se dire bah en fait il y a beaucoup d'hommes dans la gouvernance, beaucoup d'hommes sur les postes de direction, en tout cas dans les structures qu'on accompagne. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une vision un peu partielle qu'on a et c'est les associations qui tapent à la porte de la GLCA qui sont structurées comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez générale dans le milieu associatif? En parallèle, en fait, il y a eu une association qui vient de Dijon qui s'appelle Parlons Égalité, qui menait un travail d'enquête justement sur la place des femmes et sur l'égalité femmes-hommes dans les associations du département de l'Ain. Et les premiers constats, en fait, et les premiers résultats qui sont sortis de cette enquête nous ont confortés dans ce qu'on pressentait, en fait, et de dire qu'il y a plus d'hommes dans les organes de gouvernance des associations. Donc à partir de là, on s'est dit, bon, il y a peut-être quand même quelque chose à faire, peut-être quelque chose pour sensibiliser les assos, pour discuter avec elles sur cette thématique. Et donc on a décidé, avec évidemment le soutien de notre bureau, puisqu'ils ont tout de suite été partie prenante dans l'organisation de cet événement, de pouvoir créer quelque chose autour de cette question-là avec les partenaires du territoire.
Et alors c'était quoi l'objectif de cette rencontre ?
Alors l'objectif, c'était à la fois de sensibiliser les associations sur la question de l'égalité femmes-hommes, comment est-ce qu'on la prend en compte au quotidien dans nos structures, mais aussi mettre en exergue les situations un petit peu d'inégalité quotidienne qu'on peut retrouver dans les associations, et aussi de mettre en avant les leviers, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut travailler sur cette question, comment on peut aller au-devant de ces situations inégalitaires, comment lutter contre ces situations en faisant témoigner des associations du territoire qui mettaient en œuvre des bonnes pratiques pour l'égalité femmes-hommes dans les associations.
Alors les bonnes pratiques, ça serait quoi ?
Alors, les bonnes pratiques, par exemple, sur les associations qui sont venues témoigner lors de cet événement, a été beaucoup évoqué la question de la formation et de la sensibilisation. Alors, par exemple, je reprends l'exemple de la Fédération Famille Rurale de l'Ain, qui forme les animateurs sur les questions d'égalité femmes-hommes pour, entre guillemets, qu'ils ne reproduisent pas les stéréotypes de genre auprès des enfants qu'ils accompagnent, mais aussi le MRJC qui sensibilise directement les enfants à cette question dans leur stage, dans leur camp de vacances, etc. Après, il y a d'autres associations qui peuvent mettre en œuvre des quotas, par exemple, au sein de la gouvernance. C'est le cas notamment de certaines associations sportives pour faire en sorte qu'il y ait une représentativité des licenciés et des adhérents dans les instances de gouvernance. D'inclure un petit peu le principe d'égalité et cette question dans les supports de communication, par exemple, d'éviter de systématiquement mettre un homme blanc d'âge moyen sur les outils de com, mais de pouvoir, alors là ça touche pas que la question de l'égalité femmes-hommes, mais de la question de la diversité, de la représentativité des adhérents et de la société dans son ensemble, de pouvoir aussi travailler à l'utilisation de l'écriture inclusive. C'est-à-dire de pas toujours, c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment, hein, dire le président de l'association, le trésorier de l'association, le directeur de l'association, ce qui n'est pas forcément le cas, ça peut être une directrice, ça peut être une présidente, mais en tout cas, on a toujours tendance à utiliser le masculin quand on s'exprime. Il y a des associations aussi qui peuvent inclure un objectif de parité dans leurs actions, c'est-à-dire toucher autant de femmes que d'hommes, ou de créer des actions spécifiques pour toucher des femmes.
Alors, nous sommes à la GLCA à Bourg-en-Bresse, une maison des associations, bah c'est un lieu de passage, comme vous avez dû sûrement entendre. On entend quelquefois la machine à café juste à côté, on entend des usagers qui viennent prendre leur courrier ou certains qui viennent massicoter quelques documents. Les associations ont-elles un sexe ? C'était notre sujet. Un titre accrocheur pour une rencontre autour de l'égalité au sein des associations. On retrouve Émiline Bertin. Beaucoup d'associations ont répondu à cette invitation.
Alors, il y avait une quarantaine de personnes présentes. Donc, pour une première, on était assez contents du résultat. Avec ce petit bémol, évidemment, donc on a, à mon avis, touché quand même principalement des gens qui étaient déjà sensibilisés à cette question. Donc c'est bien parce que ça a permis de discuter ensemble des situations vécues au quotidien et de ce qu'on pouvait penser les uns et les autres et mettre en œuvre les uns et les autres. Après, aujourd'hui, notre question, c'est comment on arrive à toucher des associations qui, pour elles, la question de l'égalité femmes-hommes n'est pas un problème, alors que les chiffres, que ce soit au national ou les chiffres qui sont sortis de l'enquête de Parlons Égalité, montrent bien qu'il y a des inégalités effectives dans les structures associatives.
Et est-ce que vous avez prévu une suite alors à cette rencontre ?
On a prévu avec la GLSA de continuer de travailler sur cette question de l'égalité femmes-hommes parce que pour nous, c'est vraiment un enjeu fort de la vie associative. Comment les associations portent réellement les valeurs qu'elles mettent en avant, celles de l'inclusion, celles de l'égalité, celles de l'université, de la laïcité, etc. Donc comment aujourd'hui les structures associatives peuvent être des exemples de transformation et de progrès social en ne reproduisant pas les inégalités qui aujourd'hui existent dans la société. Parce que nous, au sein de la GLCA, on défend les valeurs associatives, on défend le milieu associatif. Et pour nous, c'est évident que les structures associatives, c'est aussi une porte d'entrée vers la citoyenneté et vers le progrès social. Et il faut qu'aujourd'hui, les structures associatives se rendent compte de leur rôle dans la société et essayent d'aller plus loin que ce qui existe déjà aujourd'hui. Et puis ça répond aussi à un enjeu légal pour les structures associatives, puisque dans la loi, il y a évidemment un enjeu d'égalité professionnelle et salariale qui a été posé. Mais depuis avril 2018, un accord cadre qui touche toutes les structures de l'économie sociale et solidaire, donc dont font partie les associations, a été signé sur l'égalité femmes-hommes. Et dans le pacte de croissance de l'économie sociale et solidaire qui est sorti en décembre, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble en décembre 2018, cette volonté d'arriver à une parité dans les instances de gouvernance a bien été reposée par le gouvernement. Donc aujourd'hui, il y a vraiment aussi quelque chose de l'ordre du légal aussi qui va toucher les associations.
Et alors, la GLCA est elle-même une association ?
Oui.
Alors, dans le cadre de la GLCA, comment se répartissent les postes de gouvernance ?
Aujourd'hui, la GLCA, comment elle fonctionne ? Donc, avec un conseil d'administration, avec un bureau. En fait, on est sur une organisation assez classique, associative. Et on a un poste de direction salarié, donc qui est notre directeur, puisque c'est un homme, et notre président est aussi un homme. Donc voilà, on est sur une organisation décisionnelle classique, assez pyramidale, et avec des hommes au poste de clé, poste clé. Voilà, sur le poste de président, sur le poste de trésorier, et sur le poste de directeur salarié. Ce sont des hommes.
Alors en fait, c'est l'histoire du cordonnier un petit peu aussi.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, le fait que nous, on s'intéresse à cette question, ça permet aussi de nous questionner, nous, sur notre organisation, sur nos pratiques. Avec mon collègue qui travaille sur les formations bénévoles, on s'est dit, mais justement, cette question de l'expression et de la communication inclusive, on se dit, mais on dit toujours « Monsieur le Président ». Et en fait, on s'est rendu compte que dans nos formations, on pouvait aussi nous transmettre, et dans nos accompagnements, transmettre des stéréotypes. Donc voilà, ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de nous questionner et de remettre aussi en cause nos propres pratiques.
À noter donc, le 29 mars, une journée sur la thématique de l'égalité hommes-femmes dans les associations. Une journée gratuite, ouverte à toutes les assos de l'Ain, organisée par la GLCA. Et c'est quand même bien intéressant parce qu'on voit que les choses évoluent et bougent. Et oui, et ça bouge un peu dans tous les coins, il s'en passe plein de choses à Bourg. À noter du côté du CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et de la famille, qui ont travaillé avec d'autres organismes et qui permettent à des jeunes femmes qui ont décidé d'entreprendre une activité salariale de partager leur expérience. Ça se passe le 12 mars de 14 à 16 heures à l'espace Kennedy à Bourg-en-Bresse. Autour d'elles, les métiers en tout genre ont de l'avenir, c'est le titre. C'est des échanges de pratiques en la matière, exemple pour des femmes qui aimeraient bien mais qui n'osent pas. Voilà, tous les renseignements, vous les trouverez si vous allez sur le site du CIDFF.
Love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else.
there'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
Nina Simone enregistre en 1957 Love Me or Leave. Elle glisse une partie instrumentale digne d'une fugue de Jean-Sébastien Bach. C'est un morceau que tu as choisi, Annie, hein, je crois.
Oui, j'aime beaucoup les voix des chanteuses noires. De manière générale, et le jazz.
Annie Potard, dont vous connaissez la voix sur Radio B, puisque nous avons déjà réalisé un Y a pas que le 8 mars ensemble, et puis parce qu'elle lit également sur nos ondes avec...
Avec Gaël Heureux dans Encore Heureux, une émission, chaque fois on parle d'un écrivain et je lis les passages.
Alors là, aujourd'hui, tu es invité dans le cadre de, de l'émission de mars, qui célèbre les gens autour du 8 mars.
Les femmes,
autour du 8 mars. Annie, ouverte à la forme artistique en général, aux différentes formes artistiques. On pourrait dire que, c'est l'impression que ça me donne, que tu es une touche à doux, mais pas méchamment, hein, avec bonheur. Tu es principalement plasticienne. Parle-nous, s'il te plaît, de ta relation à la matière. Quelle relation as-tu avec les différentes matières que tu travailles ?
Alors, j'ai toujours aimé travailler de mes mains, depuis vraiment très longtemps. Et l'argile a été le premier matériau que j'ai abordé. J'aime son côté malléable, elle permet le retrait, l'ajout. Elle donne la possibilité de se tromper, contrairement au travail de sculpture sur bois ou pierre, qui là, quand on a enlevé, quoi. On ne peut pas faire marche arrière. Elle a un côté très doux aussi au toucher. Parallèlement, je pratique également le dessin et la peinture. Je travaille plutôt à la peinture acrylique, ce qui me permet une fois encore de peindre en épaisseur et de retrouver ce plaisir de patouiller la matière. Par ailleurs, je m'intéresse beaucoup au travail à partir de la récupération de matériaux divers. On appelle ça les techniques mixtes, hein, pour créer des sculptures, des bas-reliefs, et une fois de plus, bricoler, patouiller et surtout chercher, expérimenter et développer mon imaginaire à partir de différents champs d'expression. Je ne sais pas si j'ai une matière de prédilection. Quand j'ai réfléchi, non, j'aime un peu toutes les matières, finalement, à partir du moment où elles me permettent de chercher ce que je peux faire avec.
C'est vrai que quand on est dans ton atelier, hein, y a de la peinture, après, enfin peut-être un peu moins de peinture qu'il y a quelque temps.
Oui, qu'avant. Ouais. Hein.
Moi, quand je t'ai connue, il y avait beaucoup de peinture, et puis après, de la sculpture, du bronze, enfin plein de choses, quoi.
Oui, parce que je trouve que... C'est vraiment une manière de développer sa créativité aussi, de travailler avec toutes sortes de matériaux. Et puis, il y a du jeu, il y a beaucoup, beaucoup de jeu. On s'amuse beaucoup quand on travaille comme ça. C'est un peu comme parler différentes langues, ce qui pour moi représente un vrai défi quand je dois ne serait-ce que parler l'anglais, mais avec les matériaux, j'ai pas de mal. Je peux faire un peu parler n'importe quel type de matériaux. J'ai plus de facilité à travailler avec les matériaux. Et j'ai depuis quelques années découvert le travail de sculpture en cire. Alors là, donc, c'est pour le bronze, hein, pour in fine faire une sculpture en bronze.
Alors attends, tu parles de cire, tu parles de bronze.
Alors au départ, on sculpte la cire. Et moi, enfin, ce que je connais, c'est la cire perdue pour faire des bronzes méthode africaine. Donc, en fait, chaque fois, on a une pièce originale.
Et ça passe comment, simplement, si tu peux dire, comment ça passe de la cire au bronze?
Alors, c'est compliqué. C'est tout un processus qui sera un peu long à expliquer.
Oui, on viendra voir, tu nous inviteras.
Donc, bon, j'ai envie de dire pour finalement finir sur la matière, d'un point de vue général, le travail, les techniques mixtes permettent vraiment un champ de recherche illimité. Elles obligent à s'adapter en découvrant chaque fois d'autres manières de faire, en fait. Chaque fois, c'est différent. J'aime pas la monotonie, je crois.
Ouais, alors tu parlais de jeu tout à l'heure. Quand on préparait l'émission, Einstein disait quoi sur le jeu ?
Alors Einstein, il disait que le jeu est la forme la plus élaborée de la recherche. Et si on fait un comparatif, par exemple, si on parle des enfants, un enfant à qui on va donner un matériel pour faire des bulles, il va se poser plein de questions sur comment ça marche. Et déjà, quand on est enfant, on a ce sens de la recherche et ce plaisir de la recherche aussi.
Voilà, et il y a un résultat, donc une forme artistique.
Absolument.
Alors, tu travailles chez toi, dans un atelier qui se trouve dans le Revermont. C'est un atelier qui est lumineux, celui dans lequel tu travailles maintenant. Quand on y entre, on ressent une impression de création. On a envie de s'y installer, en fait. D'abord, pour regarder toutes les œuvres, tout ce qu'il y a, les collages, les sculptures, comme je disais tout à l'heure. Et puis, on a vraiment envie d'y travailler à notre tour. Tu accueilles du monde aussi dans ce lieu ?
Un soir par mois, oui. Et toute une soirée, puisqu'on mange ensemble. Puis après, on commence le travail jusque tard, jusque vers minuit. Et dans le cadre de cet atelier, j'accueille essentiellement des personnes qui ont envie d'expérimenter le travail plastique. Certaines choisissent une matière en particulier, n'en dérogent pas. Elles restent vraiment, elles travaillent toujours la même matière. D'autres, par contre, profitent du fait qu'il y ait plein de matières dans ce lieu pour essayer, encore une fois, chercher, trouver des possibilités de créer. Je propose, moi j'accompagne, ça consiste en apport technique, si besoin est, en découverte d'une technique en particulier, en histoire de l'art aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment bien un peu...
Entendre des connaissances, des histoires, des connaissances.
Donc on peut travailler l'argile, le dessin, la peinture, le plexiglas, toutes sortes de matériaux. Moi, ce qui me semble important et ce auquel je tiens beaucoup dans cet espace-là, c'est que les gens puissent s'exprimer sans enjeu. Et avec un certain plaisir. Il n'y a pas, on ne va pas vouloir faire, on se fout de savoir comment on peut être jugé, on n'est pas là pour juger, ni... chacun est libre finalement. Et j'invite surtout les personnes présentes à lâcher prise, à chercher leur chemin d'expression et à jouer avec les matières en fait. Donc à s'amuser encore une fois.
Ouais. Donc en fait, quand on te connaît depuis un petit moment, l'expression, tu parles beaucoup d'expression, de lâcher prise, tu parles aussi de communication puisque tu racontes des choses, ça semble être quand même un moteur qu'on retrouve dans les activités que tu fais. Tu as un parcours un petit peu singulier, tu peux nous dire, moi je t'ai connue, tu n'étais pas plasticienne, ou pas que plasticienne
pas
en,
que,
tout cas,
oui,
pas que.
En tout cas.
Que...
J'ai une pratique artistique depuis une trentaine d'années, si je remonte. Mais comme je suis plutôt réaliste et pragmatique, je n'ai jamais envisagé d'en vivre. J'ai donc en parallèle travaillé dans des secteurs de la formation, de l'éducation spécialisée, de l'animation, de l'enseignement, de l'art-thérapie encore aujourd'hui. Parce que finalement, je crois que aussi ce qui m'intéresse beaucoup en dehors du domaine de la création, c'est les gens. Et donc, on va voir après que finalement, j'ai décidé de les aider avec cette pratique artistique. Donc, j'ai travaillé dans formation, éducation spécialisée, animation, enseignement. Et alors que je travaillais depuis plusieurs années dans le domaine de la formation, j'étais un peu démotivé, souvent en désaccord avec ce que m'imposait cette pratique. Et j'ai décidé de mettre à profit mon parcours artistique en me servant des arts plastiques dans le domaine social et du soin. J'ai donc intégré une formation d'art-thérapie à l'Institut de psychologie de l'Université Lyon 2, Aujourd'hui et depuis 12 ans, je travaille en tant qu'art thérapeute et animatrice d'ateliers d'art plastique en institution, à la prison de Bourg, dans les écoles. C'est assez divers. Par ailleurs, je continue mon travail artistique, donc ça m'amène à exposer de manière assez irrégulière, car finalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est le travail que j'élabore dans mon atelier. Donc, à ce propos-là, ma prochaine exposition...
Dis-nous, allez, un petit peu de pub. Alors, tu vas bientôt exposer, dis voir.
C'est une exposition collective qui aura lieu à H2M, du 12 avril au 18 avril, et qui regroupera des artistes qui travaillent la peinture, la sculpture sur racine, le papier végétal et les sculptures en argile.
Oui, et voilà. Toi alors ?
Moi, je vais présenter des sculptures, essentiellement des sculptures en argile. Et sans oublier, le 8 et 9 juin, au Château de la Garde, dans le parc du Château de la Garde, Sculpte Nature, la Biennale de Sculpte Nature s'installe là-bas pour ces deux jours. Donc il y aura une soixantaine de sculpteurs et vraiment, il faut aller. Ça va être très bien.
D'accord, on ira. Les différents sujets, on est dans une émission qui parle des femmes. Et en fait, j'avais pensé à toi en tant que femme artiste, mais aussi par rapport à des sculptures. Passé un temps, tu travaillais beaucoup les femmes, les
Oui, j'ai beaucoup travaillé les corps et plus particulièrement le corps des femmes. Je me suis beaucoup inspiré de l'Afrique. Pourquoi, je ne sais pas vraiment. Parce que...
Tu es déjà allé en Afrique, toi ?
En Afrique du Nord, mais Afrique noire jamais.
Alors qu'en fait, il y a beaucoup de toiles et beaucoup de sculptures qui évoquent ça. C'est drôle.
Effectivement. Et puis petit à petit, j'ai eu envie... Je suis allé vers quelque chose de plus stylisé, de plus abstrait. Et aujourd'hui, c'est plutôt la forme tout court qui m'intéresse. Donc là, je travaille un peu sur des formes un peu végétales en ce moment, avec la terre. Et je travaille également sur le plexiglas, mais ça fait quelque temps déjà. Donc là, c'est plutôt à plat, et c'est plexiglas, peinture et matériaux divers.
Oui, en fait, tu continues à chercher, quoi.
Voilà. Ça m'occupe.
Alors Annie, tu as apporté quelques textes d'Ivoire. Tu voudrais nous lire quelque chose ?
Alors, j'ai apporté des choses entre autres sur l'argile, sur le jeu, sur la sculpture. Je ne vais peut-être pas tout lire. Mais je vais commencer par la matière, puisqu'on a commencé par la matière.
Bien.
L'expression n'est pas dans l'objet, mais dans le moyen. Or, dans ces derniers temps, nous avons tous une révélation extraordinaire du point de vue de l'art. C'est cette découverte du monde de la matière qui vit de notre gré par l'esprit de transposition. Nous sommes peut-être une génération heureuse en ce sens qu'elle est peut-être la seule qui se soit aperçue que la pierre, la couleur, etc. N'importe quelle matière avait une vie propre, indépendante de ce qu'on lui faisait représenter. Et ça, c'est un extrait d'une lettre de Dorin à Matisse qui date de 1906. Et ça reste finalement très actuel. Après, je voulais un peu parler de l'art-thérapie.
Oui, parce qu'en fait...
Parce que les gens se posent finalement beaucoup de questions là-dessus.
Oui. Et puis, vas-y, je te
montre. Alors, je tiens à dire déjà que l'art-thérapie n'est ni une rééducation, ni une thérapie occupationnelle, ni ergothérapie, ni sociothérapie. Elle n'est pas non plus un texte projectif. Elle ne sert pas non plus à dévoiler les problématiques de la personne. Elle est déjà leur dépassement dans leur mise en scène, leur figuration complexe, dans une production sur le modèle de l'art. Elle ne révèle pas ce qui est. Elle ne montre pas ce qui était déjà là. Elle amorce un mouvement vers ce qui peut être, ce qui peut se représenter dans le symbolique et se mettre en processus d'une création à l'autre. Donc le but pour la personne n'est pas de se débarrasser de ce qui la gêne, mais de le transformer en une création de soi-même.
Ah oui, C'est super, c'est ça l'artistique. Hein, c'est
Jean-Pierre Klein.
D'accord. faire avec ce qu'on a, faire autre chose, transcender en fait. Moi, je me souviens, on a souvent discuté quand tu travaillais avec des groupes en art-thérapie. Mmh. Et en fait, tu disais, mais quand les mains travaillent, ça libère l'esprit. Et du coup, les gens discutent, les gens parlent. Et en fait, ça libère les mains libèrent la pensée, quoi.
Les mains peuvent vraiment libérer la pensée, oui, c'est sûr. Et en même temps, moi je travaille entre autres à l'ITEP de Seillon, et ce qui m'intéresse le plus pour ces jeunes qui sont assez... qui sont pas quand même très bien dans leur peau, on va dire, et qui sont en plus préadolescents, ce qui n'est pas simple, c'est que ça leur permette de se poser. De se poser, tout simplement, et de prendre plaisir à faire.
Ouais.
Et d'être valorisé par ce qu'ils font. Je ne cherche pas à interpréter leurs œuvres d'abord, parce que je ne suis pas psychologue, et donc je ne peux pas le faire, je ne veux pas le faire. Mais c'est plutôt ce moment de tranquillité. Ce moment où on est ailleurs, on peut jouer, il y a un cadre, mais on est libre.
Alors, du coup, dans cet atelier, parce que moi, j'ai participé à des ateliers avec des jeunes comme ça, et je me souviens effectivement de ce silence, hein, quand tu dis les jeunes se posent, de ce silence et d'être complètement étonné du fait d'être complètement accaparé par la matière,
dedans.
Et parce qu'on est complètement dedans.
Mais c'est pour ça que ça fait du bien, je pense.
Ouais.
C'est aussi pour ça que ça a un impact plutôt positif. Alors après, certains vont être plus attirés vers la terre, d'autres... ce que je veux dire, on peut faire des arts plastiques en art-thérapie, mais on peut faire de la musique, on peut faire de la danse, on peut écrire. C'est vraiment... chacun trouve son média de prédilection, je dirais.
Et pour en revenir à ton atelier, quand tu travailles dans le silence ou tu travailles avec un fond sonore?
Alors Radio B va pas être très très contente, mais bon, comme je ne peux pas la voir sur ma radio, j'habite trop loin de Bourg, donc j'écoute France Culture.
Et t'écoutes de la musique et des émissions.
Toute la journée, ouais, des émissions, ouais. J'aime bien.
Ben écoute, là, en tout cas, on va terminer l'émission avec un autre titre que tu nous as proposé, Miles Davis.
Miles Davis.
Ben voilà, on va terminer pour une fois avec cette musique plutôt douce de la trompette de Mike. Notre émission donc touche à sa fin. Vous venez d'écouter Il n'y a pas que le 8 mars, une émission animée aujourd'hui par Joël Garraud en compagnie d'Annie Potard. Merci à Théophile Callard pour la technique aujourd'hui tu es à la console et au montage. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur www.radio-b.fr, et si vous voulez écouter en direct, je vous rappelle que, enfin, si vous nous écoutez en direct, je vous rappelle que nous avons rendez-vous à Bourg ce 8 mars 2019 à 16h devant la Pref. Et puis un peu plus tard, si vous voulez nous rejoindre au champ de foire, ça sera l'occasion de nous rencontrer. Une fois n'est pas coutume, donc on se quitte sur une musique de Miles Davis, Flamenco Sketch, de belle mélopée à la trompette, un morceau proposé par Annie, notre invitée du jour. Bonne soirée sur Radio B.